Nous allons parler maintenant d'une maladie, d'un trouble. On verra lequel des deux, comment bien l'appeler. Une chose est sûre, c'est que c'est pour les gens qui en sont atteints un problème qui handicape beaucoup la vie. Et là, si vous êtes migraineux, migraineuse, vous savez de quoi je parle. Avec la pandémie, évidemment, avec aussi le changement de saison, on est en plein dedans. Si vous êtes tendance migraineux, migraineuse, peut-être votre migraine s'est-elle un peu plus réveillée au cours des derniers jours avec les changements de température. On va discuter au cours de la prochaine demi-heure de la migraine et de ses traitements parce qu'il y a quand même un peu d'espoir pour les migraineux depuis les dernières années. On est en compagnie de la docteure Heather Pym qui est neurologue au CHUM. Elle est spécialisée en médecine des céphalées. Bonjour, docteure Pym.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de la migraine parce que les migraineux qui sont à l'écoute le savent, c'est très difficile d'avoir un bon diagnostic, d'avoir un médecin qui comprenne bien ce type de céphalée. Une migraine, c'est pas un mal de tête ordinaire.
Non, ça c'est clair. Puis en fait, ce que vous dites est absolument vrai. Il y a malheureusement très peu de gens qui reçoivent une bonne diagnostic. En fait, il y a une belle étude faite aux États-Unis qui a démontré, si on suivait là les gens qui consultaient, qui voyaient un médecin, qui recevaient le bon diagnostic, qui recevaient un bon traitement, il y avait juste 5% qui ont fait tout le parcours correctement, là, juste 5%.
Incroyable.
Donc, c'est épeurant, là. Puis, plus d'hommes vont sans diagnostic que les femmes parce qu'on reconnaît quand même que la migraine est plus fréquente chez la femme. Donc, les femmes sont plus souvent diagnostiquées que les hommes, malheureusement. Donc, ça, c'est une autre population cible là, qui est à risque. Là.
Évidemment, c'est une maladie qui touche plus les femmes. On dit à 80 % à peu près 20 % d'hommes. Peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de recherches et donc de traitements, vous diriez, Dr Pym?
Bien, surtout moins de... En fait, dans les recherches cliniques, on voit que ces ratios-là sont bien représentés. Donc, il y a souvent plus de femmes dans les études cliniques. Donc, possiblement, on connaît moins bien la migraine chez l'homme, mais en soi, je crois que la biologie en dessous est pareille. C'est juste qu'il y a des facteurs hormonaux chez la femme qui viennent influencer plus que chez l'homme.
Ouais. Vous dire, avec la pandémie, il y a un impact sur les personnes qui vivent avec des migraines?
C'est clair qu'on voit ça là après un an. Tu sais, au début, je pense que tout le monde était parti, tout le monde était OK, ça va bien aller, puis courage tout le monde, mais après un an, on commence à être tanné. Et on voit ça malheureusement dans la pratique. Quand les gens qui vivent avec la migraine, surtout la migraine chronique depuis longtemps, ils ont trouvé des façons pour s'aider. Hein. Ils ont bien compris que c'est pas juste la médication qui va leur aider. Et les gens ont fait des changements dans leur vie. Hein. Des fois, ils changent de carrière. Des fois, ils changent leurs habitudes de vie. Ils en prennent, tu sais, ils vont faire plus d'activités physiques, par exemple. Puis, tu sais, la pandémie, avec tout ce que ça nécessite pour être sécuritaire, ça apporte un certain isolement.
Ouais.
Et donc, les gens ne peuvent pas sortir autant, ne peuvent pas voir leurs proches, ne peuvent pas se divertir, ne peuvent pas aller au gym. Donc, c'est sûr que ça a un impact à long terme.
Ouais. On dit qu'il y a à peu près 19 % des Québécois adultes. Bon, faisons un chiffron. Disons que ça touche 20 % de la population québécoise, la migraine. C'est énorme. Là. C'est un problème de santé publique important. Et pourtant, il y a des gens qui vivent, comme vous venez de nous le dire, 95 % des gens vivent avec une migraine sans être même diagnostiqués, sans avoir accès à un médecin comme vous spécialisé là-dedans. Puis on s'arrache les cheveux avec ça. Là. Je veux dire, on a souvent pensé que c'était un problème. On s'est souvent fait dire, c'est dans votre tête, ma petite madame, respirez par le nez. On a souvent considéré que la migraine, c'était pas un vrai problème de santé. Puis ça, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une maladie ou c'est un trouble ou c'est autre chose? Il y en a qui ont de la misère encore à considérer que c'est une vraie maladie, la migraine.
Non, ça c'est vrai aussi. De moins en moins, heureusement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, la recherche qui se fait dans la biologie qui est en dessous de la migraine, on a des meilleures preuves, mais c'est pas une preuve qu'on utilise en clinique. Donc, par exemple, avec ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, il y a des résonances magnétiques où on voit fonctionner le cerveau. Et donc, si on met quelqu'un avec une migraine, en pleine phase de migraine, dans une de ces machines-là, bien, on voit bien les régions qui vont s'allumer ou s'activer pendant la migraine. Donc, ça, c'est comme la preuve qu'il y a quelque chose en dessous biologique qui se passe. Donc, avec ces informations-là, on est de plus en plus convaincus, mais il faut passer ces informations-là, il faut les transmettre pour que les gens comprennent. Parce que sur le plan clinique, quand quelqu'un se présente devant moi, j'ai pas de prise de sang pour dire à quel point ils sont souffrants. Puis la majorité des imageries qu'on peut faire, que ce soit un scan cérébral ou une IRM, ne démontrent pas la maladie de la migraine.
C'est comme une maladie invisible, finalement, là.
Oui, puis c'est ça, c'est un fardeau parce que pour moi, comme médecin, quand j'ai quelqu'un devant moi qui est très souffrant, très handicapé, de faire preuve de ça à l'employeur ou à une assurance privée, ça prend du travail. Il faut mettre l'épaule à la roue souvent pour essayer de sensibiliser les gens au fait que la maladie, effectivement, est une maladie et que ça peut être très handicapant pour certains. T'sais, vous avez parlé de 20 % de la population. Les chiffres, bon, on parle pour parler, là, mais les chiffres, pour moi, c'est à peu près 10 à 12% de la population en général. Là. Mm-hmm. Puis la maladie chronique, heureusement, touche moins. Donc, dans cette population de 10 à 12%, il y a à peu près 1 ou 2% qui sont chroniques. Puis clairement, la maladie d'intensité chronique a beaucoup plus de comorbidités qu'on dit associées, comme la dépression ou des troubles du sommeil. Donc, un handicap encore plus important.
Ouais.
Parce que, tu sais, il faut le dire, la migraine, c'est pas juste avoir mal à la tête, il y a tout un syndrome autour de ça.
Oui, bien, parlez-nous-en donc de ce syndrome-là. Vous voulez parler aussi des auras, de tout ce qui entoure, tout ce qu'on peut ressentir comme symptômes?
Vous l'aviez dit, hein, parfois les gens disent « Ah, ben là, madame, vous avez juste mal à la tête, c'est rien », mais je pense qu'il faut comprendre, c'est que la maladie de la migraine, il y a comme un avant, une partie centrale de la maladie, puis il y a l'après. Hein. Donc, l'avant, on appelle ça le prodrome, hein. Donc qu'est-ce qui arrive avant, ça peut être 1 ou 2 jours avant, qu'on est fatigué, qu'on est déconcentré, il peut y avoir d'autres symptômes, là, mais c'est pas le mal de tête en tant que tel. Mm. Il y a d'autres gens, à peu près 30% des migraineux, que juste avant la migraine, à peu près 1 heure avant, vont développer des symptômes neurologiques. La plupart du temps, c'est visuel. Donc, il y a un aspect de leur vision qui est coupé ou qui est scintillant ou qui est en forme de zigzag déformé. Donc, ça aussi, ça peut être troublant. T'sais, si vous êtes sur la route, vous êtes en train de conduire, puis tout d'un coup, l'environnement devient tout croche, c'est pas évident. Donc, il faut prendre le bord. Puis là, la migraine s'installe. Puis bon, ça prend à peu près 1 heure pour s'installer comme il faut. Et là, c'est la nausée, parfois même des vomissements, toutes les sensibilités autour, hein, les lumières, les sons, les odeurs. Des fois, les gens sont facilement étourdis. C'est très handicapant. La plupart des gens doivent aller se coucher dans une salle noire, tranquille, le temps que ça passe. Et par définition, c'est des maux de tête qui durent longtemps. Habituellement plus que 4 heures. Parfois, ça peut durer des jours. Donc, après ça, bon, la douleur tombe, mais qu'est-ce qu'il y a après? Bien, on est encore déconcentré, fatigué. Donc, c'est ça qui contribue, là. La migraine, c'est pas juste une mal de tête. C'est tous les symptômes autour qui rend ça très handicapant.
Ah, oh, Dr Pym, là, vous faites la liste de tous ces symptômes, puis ça me ramène des très mauvais souvenirs. Je peux le dire aux auditeurs, puis on en a déjà parlé ici, puis j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi. Il y a Marc qui m'écrit, là. Il est bien content parce qu'il vient d'avoir un rendez-vous avec vous le mois prochain, Dr Pym. C'est un nouveau client. Un homme, voyez-vous, là, qui a des problèmes de migraine. Ça faisait quelque temps qu'il attendait sur la liste d'attente, mais là, il est content. Mais c'est vrai que ces symptômes-là sont extrêmement handicapant. Et il y a un moment là où on se dit, si c'est plus souffrant que ça, on veut que ça arrête. Là. On est prêt à tout faire pour que ça arrête. Moi, ça m'a handicapé des années de vie et c'est pour ça que je trouve qu'il faut qu'on en parle. Merci de nous donner l'occasion de le faire. Je vais donner nos numéros de téléphone pour que les gens qui ont des questions puissent les poser. On a accès à une neurologue spécialisée en céphalée. C'est formidable. Si vous êtes un nouveau ou une nouvelle migraineuse, c'est le moment de peut-être aller trouver des explications. Dites-nous aussi si vous êtes un migraineux ou une migraineuse, là, si la période pandémique vous a vous a nui. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Parce que la grande question, évidemment, Dr Pym, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec ça? Parce que, vous l'avez dit, il y a le stade chronique, mais c'est comme si... C'est ça qui fait sans doute, je pense aussi, que les migraineux, des fois, sont pas pris bien au sérieux, qu'il y a encore la notion de est-ce qu'on la croit, la personne qui dit qu'elle a des migraines puis qu'elle peut pas aller travailler? Il y a tout ça encore, parce que dans le fond, la veille, on va bien. Dans la crise migraineuse, on veut mourir. Puis le lendemain, quand la migraine est terminée, on est content, on est heureux. C'est comme c'est ces états-là qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui a jamais eu une migraine.
Oui, c'est vraiment les montagnes russes, hein, ouais, des exact. Émotions. Justement, ouais. comme vous dites, on voit dans ce que vous dites que vous avez déjà vécu ça. Et c'est pas parce que je veux que d'autres mondes vivent ça, mais c'est comme si ça prend ça pour comprendre. Et je trouve pas que ça devrait être nécessaire. En fait, je crois qu'avec ce qu'on enseigne aux gens qui devraient être capables d'être sensibilisés au fait que la migraine existe, que c'est une maladie handicapante, et à être empathique face aux gens qui souffrent de cette maladie-là. Même les gens, vos collègues de travail, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui souffre de migraine, juste le fait de porter du parfum peut être un facteur aggravant pour cette personne-là. Ça a l'air simple, mais juste être sensible à l'environnement puis empathique face aux gens que vous connaissez qui souffrent de cette maladie-là.
La lumière, des fois dans les milieux de travail, là, les néons, l'éclairage trop ouais. puissant, là, ça aide pas. Puis quand on le dit des fois, là, c'est comme « voyons, bien fatigante ».
Oh non, c'est ça, mais tu sais, on devrait pas, c'est ça exactement.
Je sais pas comment vous faites travailler à l'hôpital parce qu'il y a une place où il fait jour puis que c'est agressant, c'est bien là.
Oui, mais je pense que c'est ça. T'sais, on veut que les gens se prennent en main avant qu'ils se ramassent à l'urgence, c'est clair. Hein? L'urgence, c'est pas la place pour quelqu'un de migraineux. Je pense que quand on pense à la migraine, puis qu'est-ce que je peux faire? En fait, les conseils généraux que je peux donner, c'est que si vous souffrez de maux de tête régulièrement, consultez. Hein? Puis là, la prochaine chose, c'est que les gens vont dire, ouais, mais j'ai pas de médecin de famille, qu'est-ce que je fais? Si vous n'êtes pas inscrit pour un médecin de famille, allez-y, là, mettez dans votre barre de recherche sur l'Internet GAMF pour guichet d'accès pour un médecin de famille. Inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est sûr que vous n'allez pas en avoir un médecin de famille.
Après ça, il faut trouver un médecin de famille qui comprenne ça aussi.
Très bon point, très bon point. Donc, nous, c'est notre mandat au CHUM. On essaie de faire le plus d'enseignements possible. Et bien sûr, on est disponible pour les médecins de famille pour appuyer la première ligne. Il y a trop de migraineux au Québec, au Canada, pour que ce soit juste les neurologues qui les voyons. Donc, il faut quand même qu'on partage le travail, mais on demeure disponible pour appuyer la première ligne. Des fois, il faut aller en centre rendez-vous, mais il faut être vu. Hein?
Ouais.
Puis, l'autre chose, c'est l'éducation. Hein? Il y a des sites éducatifs pour les patients comme Migraine Québec, où les gens peuvent s'instruire davantage sur la migraine, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a des groupes de soutien aussi qui peuvent offrir un soutien aux patients. Donc, il faut connaître la maladie.
Oui, voilà. Dr Pym, vous restez avec nous. Merci beaucoup de prendre le temps d'être là. On va revenir après la pause sans doute avec des questions d'auditeurs. Nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole. Je suis contente. Il y a beaucoup d'hommes là, qui me posent des questions aussi. J'ai l'impression que vous me le direz. Est-ce qu'il y a une augmentation de migraines nues, de migraines chez les hommes? Ou en tout cas, est-ce qu'il y en a plus en général? C'est sûr que de plus en plus, quand on est migraineux, on commence à comprendre mieux là, ces symptômes et ce qu'on appelle les triggers, c'est-à-dire ces facteurs déclencheurs de la migraine. Éric veut avoir un peu plus d'informations sur le Botox aussi. Est-ce que c'est un bon traitement pour les migraines? Donc, on va parler de tout ça après ceci. Nos numéros 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Oh mon Dieu, tellement de gens m'écrivent à isabelle@985fm.ca pour me témoigner de ce que vous vivez comme migraineux. Vous êtes à la bonne place. Je compatis. Je sais ce que vous sentez. C'est tellement souffrant. Dr. Heather Pym est avec nous. Elle est neurologue au CHUM, spécialisée en médecine des céphalées. Dr. Pym, vous en entendez, vous, des gens qui vous disent à quel point c'est souffrant. Je pense que c'est le plus grand mal.
En fait, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de... Donc, je ne veux pas juger de ça, mais c'est clair que j'ai un biais, là. Puis, en fait, je veux juste dire une petite chose pour les gens qui écoutent, puis pensent peut-être que les migraineux chroniques, les migraineuses, sont des patients qui se plaignent, là. Ça ne peut pas être le contraire. Les gens migraineux, là, il faut essayer de les arrêter. Hein. Ils veulent faire, ils veulent travailler, ils veulent... faire leur pleine vie. Hein. C'est des gens qui veulent. Des fois, il faut leur demander de se retirer un peu, puis peut-être pas faire 60 heures semaine au travail. T'sais. Mais ce n'est pas des gens avec des douleurs chroniques qui sont sur le divan la journée longue. La majorité, là, sont des gens qui veulent bien faire. Et c'est ce qui m'a attirée vers cette population parce que je trouvais qu'ils étaient desservis et je trouvais que je pouvais les aider à être plus fonctionnels.
Mais c'est parce que souvent, au-delà des traitements médicamenteux, Dr Pim, ce qu'on va dire à un migraineux, c'est, vous savez, il faudrait quasiment que vous ayez une vie de moine. Il faudrait plus sortir, plus manger telle affaire. Tout ce qui est le fun, on ne peut plus manger ça. Du chocolat, du vin, tout ça, là, on ne peut pas manger ça. Les sulfites, c'est pas bon. Fait qu'on nous dit, changez votre alimentation, changez vos habitudes de vie, travaillez pas trop, allez pas trop à l'école, faites pas trop d'activités physiques intenses parce qu'il y a des migraines à l'effort. Restez tout seul dans votre chambre, couché au noir quand vous avez ça. Mais pour certaines personnes, c'est plus de la moitié du mois là, qu'on passerait dans le noir, la porte fermée, pas de bruit, pas rien, là.
C'est ça. C'est ça. Je pense que les facteurs de risque ou les déclencheurs là, sont propres à chacun, mais c'est important de les vérifier chez chaque individuel pour essayer de les éviter, entre autres la diète, le stress, le manque de sommeil, etc. Puis quand on a tous regardé les déclencheurs, bien, il faut avoir un bon traitement de crise pour casser la crise et au plus vite. Et sinon, si on a trop de migraines par mois, bien, on ne peut pas manger ces casse-crises à tous les jours. Là, ça donne mal à la tête plus que d'autres choses. Donc là, il faut aller vers des traitements pour prévenir la migraine. Puis heureusement, c'est l'aspect positif dans tout ça, c'est que dans les dernières années, on a eu beaucoup plus de traitements plus ciblés pour la maladie. Donc, encore une autre raison de consulter pour justement avoir les bons outils.
Voilà, parce que Gaston nous appelle, ça fait 57 ans, Gaston, que vous vivez avec la migraine.
Oui, l'enfer.
Oh mon Dieu, je compatis tellement, Gaston. Êtes-vous suivi au moins maintenant?
Bien là, je vais avoir 60 ans cet été. Moi, j'ai commencé à prendre des Fiorinal C encore à l'âge de 7 ans à Saint-Justine. Mm. J'ai tout essayé. Là, ça fait. Disons qu'en vieillissant, ça va mieux. Je sais pas si c'est normal.
Oui. Mm-hmm.
Ou si j'ai appris à dealer avec d'une meilleure façon. Mais non, c'est vraiment un handicap. J'ai été critiqué dans la vie parce que je pouvais pas faire ça, je pouvais pas faire ça. Puis, le monde, on est complètement dénigré. Dès que tu es classifié migraineux, là, le monde te regarde plus pareil parce que tu vis plus pareil.
Ouais.
Mais là, je me demandais tout simplement, si rendu à mon âge, parce que là, j'ai des maux de tête qui est un inconfort, puis j'ai mes migraines. Là. Tu vomis, tu peux pas rien endurer, puis tout. Mais je me demandais si à mon âge, je devrais essayer de poursuivre un peu plus ou juste continuer à vivre avec, là. Peut-être que votre invité
pourrait... Oui, Dr Pim, qu'est-ce qu'on fait comme Gaston, là, qui vit ça toute sa vie, finalement, migraineux, sans être vraiment traité?
Mais je pense que c'est toujours important, surtout si vous trouvez que c'est un handicap dans votre vie, d'en parler avec votre médecin, puis vous déciderez ensemble si ça nécessite un changement de traitement ou pas. Mmh. Parce qu'il y a des médicaments qui sont meilleurs que d'autres, puis il y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses pour traiter la migraine. Donc, ça se peut que c'était pas disponible il y a 20 ans, ou certainement il y a 57 ans, mais que t'sais, que maintenant, vous auriez des choix. Donc, à mon avis, on doit toujours, si c'est un problème, en reparler de temps en temps à notre médecin pour voir s'il y a des nouveautés.
Est-ce que c'est un neurologue forcément ou un médecin de famille peut nous donner accès à tous ces nouveaux médicaments? Il y a des traitements, il y a des nouveaux traitements. Dernièrement, il y a l'injection Aimovig, l'injection, il y a Emgality, il y a plein de nouvelles choses. Est-ce que ces médicaments-là, qui sont quand même des avancées là, pour les migraineux, ça ne marche pas dans tous les cas, mais quand même, il y a des bons résultats, selon vous, Dr Pim. Est-ce que c'est que par un neurologue comme vous ou un médecin de famille peut aussi donner ce genre de traitement?
Bien, c'est une très bonne question. Premièrement, pour répondre, là, les médecins de famille ont accès à toute cette information-là. S'ils ont un confort à prescrire certaines choses, ça dépend d'eux. Mais certainement, tous les médicaments par la bouche qu'on peut prendre, ils ont accès. Et les autres traitements, comme en deuxième ligne, comme le Botox ou les anticorps comme Aimovig ou Emgality ou Ajovy, là, les nouveaux injectables là, qu'on a depuis quelques années, en fait, ces médicaments-là, souvent les médecins de famille vont vers le neurologue pour avoir un appui, vu que c'est nouveau. Mais, tu sais, éventuellement, n'importe quel médecin pourrait prescrire ça, mais vu que c'est nouveau, j'ai l'impression que les médecins de famille ont plus tendance de demander de l'aide. Mais il faut passer à travers les médicaments par la bouche pour avoir la possibilité d'essayer le Botox ou bien les anticorps par injection.
Et pour répondre à la question de tout à l'heure de Marc, est-ce que le Botox, ça fonctionne?
Le Botox, à mon avis, fonctionne bien. C'est sûr qu'il faut bien sélectionner les patients. Donc, c'est les patients qui ont au moins 15 jours de maux de tête par mois, dont 8 ont vraiment les caractéristiques de la migraine, comme j'ai décrit tantôt. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des gens, après 3 traitements consécutifs, à peu près 70 % des gens s'améliorent d'au moins 50 % au plus.
Fait que c'est quand même bon, là.
Oui, puis l'autre chose, c'est que ça soit le Botox ou même les nouveaux médicaments injectables, ce qu'on gagne surtout, c'est une excellente tolérabilité. Oui. Hein, le Botox, c'est un traitement local. Juste à préciser pour les gens qui écoutent, c'est pas un traitement pour l'esthétique. Hein, on va pas les chercher. C'est vraiment des injections qui sont faites pour la migraine. Et en fait, ça peut être très efficace et très bien toléré. Hein, donc, aucun effet dans le corps. Et la même chose pour les médicaments injectables, c'est quand même quelque chose qu'on injecte dans notre système, mais la tolérabilité est vraiment excellente.
On a France qui est avec nous. 40 ans de souffrance, France?
Oui. Oh, 40 ans de souffrance. J'ai commencé vers l'âge de 20 ans. Et puis là, ben c'est ça. Moi, c'était... Puis j'ai une question, parce que moi, c'est souvent arrivé les fins de semaine après ma semaine de travail. Le soir, quand j'arrivais, là, je chantais que c'était pour venir. J'ai déjà fait aussi des migraines ophtalmiques, mais sans la migraine. Donc, tu sais, moi, c'était une espèce de... Là, c'est mon chat, je suis désolée. Là, c'est ça, ça faisait comme un zigzag dans mon œil, là, du coin jusqu'à l'intérieur.
Ouais,
c'est ça, ça déformait. Et puis moi, mais je devais me coucher aussi. Là, je suis à la retraite, et puis ça fait comme un an et demi, 2 ans que je touche du bois, j'en ai pas eu.
Ouais.
Je me dis, bon, est-ce que c'était tout le stress? Est-ce que c'est important, le stress, dans la migraine aussi?
Oh mon Dieu, tellement, hein, Dr Pym, le stress, gros facteur. Puis il y a aussi la question hormonale. Il y a beaucoup de gens qui font des migraines hormonales et quand le niveau d'hormones diminue, bien, la migraine diminue un peu. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer comme ça, Dr Pym?
Oui, absolument. Je pense que France amène 2 points excellents. Premièrement, les fins de semaine, les migraines de fin de semaine, c'est classique. Quand le stress tombe, que ce soit des gros pics de stress ou quand le stress varie énormément, ça peut être déclencheur de migraines. Et l'autre facteur, surtout chez la femme qui ont vu des migraines associées à leur menstruation, lors de l'âge de la ménopause, ben les hormones commencent à diminuer. Donc, on a beaucoup de moins d'influence hormonale. Et pour la majorité des femmes, la migraine s'améliore avec l'âge.
Oui. Alors, évidemment, quand on a 17 ans qu'on se fait dire ça, on se dit, oh mon Dieu,
oui,
ça va
c'est
être long, longtemps.
Le temps est long.
Oui, c'est ça. J'ai Mylène qui me dit que vous êtes sa neurologue et que vous lui avez sauvé la vie, entre autres avec le médicament Hemovig. Elle est passée de 22-27 jours de migraine par mois. Ça, c'est pénible. À 2-3 jours par mois. Elle dit, le problème, ce sont les assurances qui demandent sans cesse des formulaires pour renouveler. Elle dit, c'est un vrai casse-tête. On ne sait jamais si on va pouvoir avoir notre injection le mois prochain. Pourtant, quand ça fonctionne bien, c'est vital pour moi. Donc, ça, c'est un vrai problème, par exemple, Dr Pym. Hein?
Oui, en fait, l'accessibilité, surtout récemment, c'est pas facile, mais on travaille des meilleures façons. Le problème étant, avec tous les médicaments qui sont nouvelles, on est content d'avoir des nouveaux outils, mais avec ça vient beaucoup de paperasse. Hein. Donc, on est quelqu'un dans une clinique surspécialisée comme au CHUM, ben on reçoit toutes les gens qui ont les migraines les plus réfractaires, et donc ces gens-là nécessitent ces genres de médicaments-là. Donc, ça fait plusieurs papiers. Donc, on est un peu submergé. Mais c'est des choses, c'est des problèmes cléricaux qui vont s'améliorer avec le temps. Donc, il ne faut pas hésiter de faire la demande ou d'en discuter avec votre médecin juste à cause de ce problème-là. C'est des choses qu'on va se voir améliorer avec le temps, j'espère.
Oui, c'est ça, il faut espérer parce que c'est tellement, tellement incapacitant. Là. Puis, bon, évidemment, il y a l'accès à un spécialiste comme vous. C'est quand même relativement long. Là. Puis, je sais que ce n'est pas de votre faute, Dr Pym. Là. Ça, c'est clair. Vous-même, vous êtes bien déçu de tout ça, mais le système est long à prendre en charge les migraineux puis les migraineuses au Québec, là.
Je pense qu'un mot encourageant que je pourrais dire, c'est que effectivement, l'accès à une spécialiste, point, c'est pas facile. Il y a le système via le CRDS maintenant, qui est un système qui devrait avoir une conduite plus directe vers les spécialistes des médecins de famille. C'est pas un système parfait, mais c'est un début. Et je pense que de voir un neurologue, point, c'est quand même une très bonne chose. Pas toujours d'être orienté vers une clinique spécialisée, c'est pas toujours nécessaire. N'oublions pas que quand on gradue comme neurologue, migraine, c'est 40 % de nos consultations sont en maux de tête et la majorité de ceux-là, c'est la migraine. Donc, quand nous finissons notre formation, on sait comment traiter les migraineux. Puis, il y a beaucoup plus de neurologues au Québec que de surspécialistes en migraine. Mmh. Donc, commençons avec votre médecin de famille. S'ils ont besoin d'aide, ils vont demander à un neurologue. Si mes collègues neurologues ont des questions, je demeure disponible. Mais ça fait en sorte que vous allez avoir un meilleur accès. C'est d'attendre dans une clinique surspécialisée pour un premier diagnostic ou un début de traitement, à mon avis, c'est une perte de temps, puis ça introduit des délais dans le traitement.
Ce que vous voulez dire, ça ne sert à rien d'aller à la clinique de la migraine directement, c'est ça que vous voulez dire?
Bien, pas attendre, non nécessairement, c'est juste ouais. Ça. T'sais, si c'est attendre 2 ans dans une clinique surspécialisée, ben oui. Quand un neurologue dans un milieu plus général pourrait débuter un traitement, je trouve que c'est la façon la plus efficace de débuter ouais. Un traitement le plus rapidement possible.
Mais même ça, c'est difficile, par exemple, d'en avoir un. Moi, ça m'a pris des années, Dr Pym, avant d'avoir un neurologue. Là. Quand je l'ai trouvé, mm-hmm. Là, je veux dire, c'était le bon Dieu là, pour moi. Là. Il me sauvait la ouais. Vie. Là. Ouais. Mais... C'est tellement long. Puis vous le dites, c'est pas que la neurologie, là, c'est toutes les spécialités, avoir accès à un rhumatologue, à un spécialiste, un dermatologue. Ça, c'est, je pense, c'est encore, mon Dieu, faut monter les marges de l'oratoire à genoux, là. Ça se peut pas. C'est un vrai problème. En attendant, les gens souffrent. Puis je disais à un médecin dernièrement, justement, c'est un neurochirurgien qui était pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi, je suis convaincue de ce que je disais par expérience. Je trouvais qu'on a une très mauvaise gestion de la douleur au Québec parce que ça soit la migraine ou d'autres maladies souffrantes, on souffre beaucoup, puis à part avoir des opioïdes ou des médicaments qui sont extrêmement durs pour le corps, qui peuvent créer d'autres problèmes de santé, on n'a pas tant de choses que ça là, pour enlever la douleur.
Je suis d'accord. Je pense que quand il y a un manque d'outils en médecine, les médecins se gênent d'aller vers cette sous-discipline-là. Hein? Donc, c'est les listes d'attente dans les cliniques, la douleur, etc. C'est pas facile parce qu'on n'a pas des super bons outils. Hein? Donc, je pense que c'est une certaine gêne face aux médecins d'aller vers ces disciplines-là. Donc, par conséquent, il y a des gens qui souffrent de douleurs qui sont pas traités. Juste un petit mot, là. Je suis pas médecin de famille, mais j'ai vraiment énormément de respect pour les médecins de famille et je trouve qu'on est vite, on est comme vite à dire que le médecin de famille ne serait pas capable. J'ose dire que j'ai même pas rentré en médecine familiale parce que j'aurais pas été assez bonne, OK? ils doivent être vraiment bons dans plusieurs disciplines et je pense qu'on leur donne pas assez de crédit. Non seulement ça, quand on est médecin, on est forcé à regarder soi-même c'est quoi nos lacunes puis comment on devrait se développer et il y a des médecins qui continuent bien évidemment à faire des cours puis apprendre des choses. Donc, si vous en parlez de votre problème à votre médecin de famille, ça se peut qu'ils vont aller chercher les bonnes informations eux-mêmes pendant que vous êtes en attente pour voir quelqu'un plus spécialisé.
Et effectivement, puis un conseil qu'on peut peut-être ajouter, Dr Pym, en terminant, c'est quand on va le voir, notre médecin de famille, prendre en note toutes les informations, combien de fois par mois, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les symptômes, à quelle heure idéalement, combien de fois par jour, par semaine, le plus on va pouvoir...
Oui, garder un calendrier. Il y a une super bonne ressource qui s'appelle le calendrier canadien de la migraine. Téléchargez-le, c'est une application gratuite. Ça va être un énorme outil pour vous et votre médecin.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre horaire hyper
chargé. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup, Heather Pym, une fabuleuse neurologue au CHUM. Sincèrement, là, si vous avez la chance de croiser sa route, à un moment donné, si vous êtes migraineux, elle va changer votre vie. Mais il y en a d'autres neurologues qui peuvent vous aider. Et puis, comme elle l'a très bien dit, documenter votre maladie. C'est une maladie bien réelle. Puis, vous savez ce qui aide aussi? C'est d'en parler entre migraineux. Ça, là, il y a des groupes de soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet. Et il y a des... Bon, évidemment qu'en pandémie, on n'a pas encore le droit de se rassembler, mais à un moment donné, on va pouvoir se retrouver dans la même pièce. Moi, j'ai participé à ça à un moment donné, puis c'est fou de voir que t'es pas tout seul, puis qu'il y en a d'autres. Et surtout, de croire le migraineux. Là. Les parents, vous voyez vos jeunes enfants qui ont des symptômes, c'est des vrais symptômes, là. Et c'est important d'avoir un diagnostic le plus tôt possible pour avoir une prise en charge. Évidemment, je me prends pas pour un médecin quand je vous dis ça. Je fais juste résumer toute mon expérience avec cette maladie. Justement, en parlant de ça, quelqu'un à qui on a dit, bon, on peut pas se prendre pour un médecin. C'est Jacinthe René. Vous avez vu, grosse affaire quand même. La comédienne et entrepreneur, propriétaire de Maison Jacinthe, a pas plu au Collège des médecins qui se sont basés parmi toutes ces centaines de vidéos au fil des ans où elle parlait de toutes sortes de choses, entre autres de ses produits, de ses soins, des soins, de ce qu'elle mange, entre autres, ses fameuses salades. Ben, il y a deux vidéos, entre autres, que le Collège de médecins n'a pas appréciées, où ils ont dit « Ah, Mme Renée, elle se prend pour un médecin. Elle n'a pas le droit. » Donc, c'est allé en cours. Et hier, Jacinthe Renée a été trouvée coupable. On lui parle après la pause.